Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois. J'espère que votre mois de décembre se passe au mieux. Un mois particulier puisqu'il se centre sur la famille. Et quand on est queer, on sait que la famille, c'est quelque chose. Mais avant de creuser le sujet, laissez-moi introduire mes invités du jour.
Une famille drag, enfin c'est hyper large. Ça peut être beaucoup de choses, mais moi la manière dont je le vois, c'est vraiment une espèce de mini-communauté au sein de la communauté de personnes qui s'apprécient, s'entraident, travaillent ensemble.
C'est amusement, mélange d'art, de nos univers et tout. Enfin, c'était plus quelque chose comme ça où je pouvais être moi-même et elle pouvait être elle-même aussi, sans jugement, sans quoi que ce soit.
Oui, aujourd'hui c'est une jeune et belle famille drag que je reçois dans Freaks et Merveilles. La maman de cette tribu est connue à travers toute la Belgique, je dis bien toutes, pour ses jambes infinies et ses performances chorégraphiques qui allient la puissance du punk et la poésie du drag. Sa fille, elle, a fait ses premiers pas sur scène il y a peu, alors qu'elle se tenait jusque-là dans l'ombre, mettant les artistes en lumière par de splendides photographies, mais aussi par un magazine sorti en septembre, Full Love Mag. Tout un programme dont je vous parlais déjà sur l'Instagram de l'émission dans les premiers posts. Ensemble, elles forment une famille choisie tout en écoute, en bienveillance et en douceur, qui puise de la force dans son unité, mais aussi dans sa complémentarité, Lady Leggy et Gisèle. Ensemble, on a parlé famille et parcours individuel, identité et hommage au passé, peur et espoir pour l'avenir. Belle écoute et à bientôt. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une famille drag, une jeune et prometteuse et belle famille drag. Nous avons Lady Leggy.
Bonjour.
Et bonsoir, sa bonjour. Fille Gisèle.
Bonjour.
Bonjour. Alors, comment ça va, vous deux ?
Bien. Super. Courir dans un petit train, arriver à Bruxelles, il fait beau.
Ta petite vie entre Anvers et Bruxelles, ça passe bien.
J'adore. Je passe mon temps à lire le journal dans le train. J'ai l'impression d'avoir 50 ans.
Old Lady Leggy.
Et toi, ça va, Gisèle ?
Ça va. Beaucoup de travail, tout se passe bien. Donc ça va, super.
Trop bien.
Plein de projets à venir sur Bruxelles.
Bon, évidemment, il y a un gros décalage entre le moment où on enregistre et le moment où ça sera diffusé, mais on fera un petit tour d'horizon de vos actus au moment où c'est diffusé, comme ça on pourra venir vous suivre.
Oui.
Eh bien, nous sommes là pour parler d'un grand et beau sujet de nos communautés drag, la famille. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, une famille drag ?
Moi, j'ai l'impression qu'une famille drag, enfin, c'est hyper large. Ça peut être beaucoup de choses, mais moi, la manière dont je le vois, c'est vraiment une espèce de mini-communauté au sein de la communauté de personnes qui s'apprécient, s'entraident, travaillent ensemble. Et voilà, grosso modo.
D'accord. Gisèle, tu souscris à moi, cette définition ?
Oui, et comme en plus, j'ai pas beaucoup d'expérience, moi, je vois plus ça. Enfin, comme on était amis de base et tout, c'était vraiment un truc où... c'était vraiment genre un petit duo, du coup, parce que moi, j'ai pas connu... Enfin, je suis pas trop dans le monde drag vraiment comme Lady Leggy. Mais c'était vraiment quelque chose de plus amusement, mélange d'art, de nos univers et tout. Enfin, c'était plus quelque chose comme ça où je pouvais être moi-même et elle pouvait être elle-même aussi, sans jugement, sans quoi que ce soit, tout ça. Donc je pense que c'est comme ça dans toutes les familles drag, mais du coup, voilà.
J'espère.
Mais oui, parce que alors c'est un concept qui nous vient comme beaucoup de choses liées au drag des États-Unis. En tout cas, on en parle beaucoup dans les États-Unis dans les années 80, dans les ballrooms, etc., où il y a des familles qui s'affrontent. Concept qui est en partie immortalisé dans Pose. Je ne sais pas si vous avez vu, vous, Pose.
Oui, ma vie.
Vraiment, je crois que je pleurais à tous les épisodes.
Non, mais elle est incroyable, ouais. Cette série.
Bah oui, après, c'est vrai que fin de base, il y a un peu aussi ce concept à l'origine de vraiment des personnes qui vivent ensemble. Avec une mother qui va vraiment recueillir aussi des personnes dans le besoin et les prendre sous son aile et tout, donc ça vient fort de ça. Après, nous, on est loin de ce concept-là quand même. Mm-hmm.
Vous ne vivez pas ensemble ?
Non.
Non. On était à deux doigts.
On était à deux doigts.
Ah, d'accord, waouh. Et qu'est-ce que ça vous apporte de vous reconnaître comme famille, de vous revendiquer comme famille plutôt que d'être juste deux potes qui font du drag ensemble ?
Commence.
J'ai l'impression que c'est un peu c'est cette idée où donc Luca m'avait fait part de son désir de monter sur scène et à la fois de d'une forme de peur, de crainte. Dis-moi si je me trompe. Et du coup, l'idée, c'était justement voilà, un peu de le prendre sous mon aile et de l'accompagner en fait, dans un processus performatif. Quoi, de comment arriver sur scène, comment apprendre à se maquiller, comment apprendre à apprécier aussi la scène, à trouver un peu sa corporalité et tout. Donc, c'est de là qu'on a un peu joué avec justement ce terme. On s'est dit, voilà, je suis un peu ta modeur parce que je t'accompagne un peu là-dedans. Donc
tu m'apprends aussi tout, quoi, clairement. Parce que moi-même, même si j'ai suivi beaucoup de drague en photo, de là à être drague, c'est tout autre chose. Donc moi, je n'y connaissais pas rien, mais enfin, le fait d'être, comme elle dit, sur scène, etc. et tout, c'était une angoisse de ouf pour moi parce que je suis quelqu'un qui ne lève même pas la main dans une classe, d'une salle d'école, quoi. Je suis très ouf. Wow. Donc là, de monter sur scène... Oh oh!
Ok, parce que donc toi, à la base, t'es plutôt photographe, c'est ça?
Ouais.
Mais donc, t'as suivi des dragues même dans le cadre professionnel de ta photographie. Et c'était une envie que t'avais de passer le pas, mais tu savais pas comment?
Pendant un an et demi, j'ai travaillé avec Sugar Love, en fait. On a monté un atelier ensemble pendant le confinement, on faisait des make-up et les gens venaient se maquiller et tout. Et en fait, je crois que c'était aussi... Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec elle, qui est du coup un peu... Enfin, pas une vieille drague, parce que si elle m'entend, elle va me tuer. Mais genre, un peu une drague... Enfin, c'est vraiment son métier depuis très longtemps, on va dire. Et en fait, moi, j'avais toute une autre idée de drague en tête. C'était plus freak, c'était un peu plus aussi vis-à-vis de ma transition. Parce que comme je suis un homme transgenre, je sais pas, que j'avais envie aussi de relier mon personnage drague à mon ancien moi et en fait de passer le cap au-dessus et de me dire ok en fait je m'accepte enfin j'avais besoin de ça pour me sentir bien avec moi-même aussi je crois.
Ok, trop bien. Et du coup, parce que donc Lady Leggy, on en reparlera en deuxième partie d'épisode, mais est connue pour des chorégraphies incroyables, pour un jeu de jambes inimitable. Est-ce que Gisèle, le but est que Gisèle vienne s'ancrer aussi là-dedans, dans cette identité de Lady Leggy, ou bien d'être plutôt complémentaire sur des
moi,
types de perses différentes?
Je dirais plus complémentaire, parce qu'on a chacun notre style en vrai.
Ouais, parce qu'après, moi, j'ai assisté à la naissance de Gisèle. C'était incroyable, c'est trop beau comme moment. Et c'était clairement un moment dansé. Enfin, vous arriviez, vous aviez deux masques en cuir comme ça, et puis elle t'enlevait ton masque, c'était super beau comme moment, et puis vous vous mettiez à danser, à foutre le feu au dance floor. Donc ça, c'était l'acte initiateur de Gisèle, mais Gisèle, a priori, pourra aller explorer d'autres...
Ouais, moi, je serais plus de la performance, je pense. Ce serait plus... Bah, la danse, c'est pas du tout mon truc, on aura testé.
Non.
Genre, je suis pas hyper à l'accès, mais... De là à performer dans plus un truc peut-être un peu plus lent, où je marche. Enfin, en fait, je crois que mon but, c'est un peu de faire patienter les gens. En fait, d'être un peu là en mode, allez, tu vois. Genre, Parce que vraiment, ce personnage-là reflète vraiment ma transition, je crois. Et du coup, j'ai tellement patienté que j'ai envie de faire un peu ressentir ce que j'ai ressenti dans tout ça.
Ah, wow.
Après, c'était un peu la naissance, parce que, comme Lady Leggy est un peu ma mother drag, du coup, je l'ai suivi dans son mood et tout. Et c'était trop, trop bien. C'était trop une bonne expérience parce que. J'avais jamais fait ça de ma vie et j'étais là en mode trop bien, puis je le fais avec Lady Leggy, donc trop cool. Mais ouais, du coup, moi, ça m'a grave fait réfléchir à plus, genre, je crois que moi, c'est plus un truc qui va être basé sur le costume et sur la musique, mais sans vraiment, genre, faire des shows drag comme toi où tu danses, où tu mets le feu, où tu fais des galipettes de partout et tu sautes et tu... Tu vois, moi, ça va être un truc vraiment plus lent et plus vraiment performatif.
C'est trop bien.
Je pense en effet aussi que c'est pas contradictoire, dans le sens où moi ce que j'avais envie aussi de t'apporter, c'est vraiment un peu ce travail corporel finalement que tu peux développer après ça toi de manière complètement individuelle quoi, qui t'appartient. Je pense que c'est ça un peu l'apport que moi j'ai effectivement, c'est que j'ai cet outil qui est mon corps et du coup je peux l'apporter, je pense, à des gens, à mes filles.
Ah, voilà, à tes filles, donc il y en aura d'autres.
Il y en aura peut-être d'autres.
Ah,
là, j'ai donné un workshop make-up pour la première fois. Et du coup, voilà, j'ai rencontré des personnes incroyables qui se maquillaient pour la première fois et tout. Donc, j'avais l'impression que c'était un peu mes nouvelles filles. J'étais, oh.
Ah, trop beau.
Ouais, trop mignon.
Trop beau. Et toi, du coup, ça t'apporte quoi de transmettre ça ou, bah, parce qu'en plus, bon, bah, Gisèle, tu la prends sous ton aile plus que pour un atelier make-up une fois ou quoi. Qu'est-ce que ça t'amène à toi, peut-être dans ton parcours de drague ou dans ta vision de ce que ça peut être le drague ou quoi?
Bah, je me sens vieille. Ça m'apporte de la maturité. J'ai l'impression que... Après, voilà, donc moi, j'ai effectivement toujours travaillé beaucoup en collectif. Et pour moi, c'est un truc qui est méga important et inhérent dans mon travail, quels que soient les métiers que je pratique. C'est cette notion de partage, quoi, d'apprentissage, où ça me fait hyper fort plaisir d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et au même titre, moi, ça m'apporte beaucoup le simple fait, voilà, d'échanger, tu vois, voilà, même du coup de re-questionner ma pratique quand je suis face à quelqu'un ou quoi, par exemple dans ce workshop make-up, où d'un coup on me dit ah tiens, pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça, je me dis ah tiens, c'est vrai, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça en fait. D'où est-ce que ça vient effectivement, et puis ça m'ouvre aussi les portes de leur dire bah voilà, en fait moi je fais comme ça, c'est ça que je peux vous apporter, mais il y a 10 000 autres manières de faire, et donc ça me rappelle aussi qu'il y a d'autres manières de faire et donc d'évoluer et d'apporter d'autres choses à ce niveau-là. Ouais.
Et justement tu bosses beaucoup en collectif, en tout cas dans le drag. Tu as commencé avec Drags on Bike, avec Rose Gigot, avec Shamey Blue et avec Quen, Drag Quen. Tu continues à bosser dans des collectifs. C'est quoi la différence du coup entre une famille et un collectif? Là, c'est toi qui décides, c'est toi la modeur ou...
Non, vraiment pas. En l'occurrence, Drag Bike, c'est vraiment sisterhood, quoi. Donc, c'est un peu sale. Pour moi, ce truc, en fait, la frontière est floue entre un collectif et une famille, dans le sens où moi, la manière dont j'ai commencé le drag, du coup, avec Drag Bike, on n'a jamais eu justement de mother, on n'a jamais eu de vraiment une personne qui représente notre apprentissage ou quelque chose.
Qui avait plus d'expérience et qui vous transmettait, d'accord.
Ouais, c'est ça. On a vraiment, on est vraiment parti de rien à quatre et on s'est apporté des choses les uns aux autres. Et on a appris un peu comme ça. Donc, moi, c'est en ça que ma conception de la famille drag, c'est un peu finalement cet aspect collectif famille. En fait, au final, c'est un peu la même chose pour moi.
Ok, trop bien. Et du coup, toi, de ton côté, Gisèle, j'imagine qu'en tant que photographe, c'est un travail assez solitaire ou tu avais déjà l'habitude de bosser en collectif, de bosser avec d'autres gens.
Moi, j'ai beaucoup. Enfin, c'est très solitaire. Moi, je suis très, très dans mon truc à moi. Okay. Donc, ouais, j'ai jamais bossé en collectif de photographe, quoi, jamais.
Et du coup, ça fait quoi de tout à coup plus être seul dans son coin?
Mais c'est génial. Franchement, j'ai adoré. Enfin, en plus, on se connaît hyper bien. Donc, on a chacun une apporté des choses à l'autre et tout pour construire ce petit spectacle trop mignon. Vraiment. Et genre, non, c'était. Vraiment un mélange d'univers hyper génial, et en fait ça m'a même permis de me dire ok, je vais peut-être faire ça dans le futur avec d'autres choses, d'autres projets, comme là je suis actuellement avec, je monte un magazine avec une amie, et en fait de faire ça à deux c'est en mode ah du coup ok, trop bien, je peux faire des trucs à plusieurs sans avoir peur, et c'est trop bien, vraiment ça m'apporte vraiment de la confiance en moi,
trop bien,
et ça me donne envie de continuer en vrai, genre
Yes, trop bien. Et alors à l'abord du drag, donc toi qui avais quand même fréquenté le drag depuis un moment comme photographe, puis j'imagine comme spectateur, qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Donc tu disais monter sur scène, vraiment monter sur scène.
Ouais, que les gens me regardent. Parce que quand on regarde mes photos, c'est pas moi qu'on regarde.
Ah,
moi,
ouais.
Moi, à mes vernissages, par exemple, je suis genre là, et on ne sait pas forcément que c'est moi, en fait. Ah, des fois, les gens viennent me dire, c'est bizarre, je comprends pas. Ouais, je suis en mode, ouais, pareil, je sais pas. Alors que c'est mes photos, mes trucs, mes machins. Je suis là, enfin, je suis très... autant avec mes amis, je peux être là, je prends un peu de place, je rigole, je suis haha, j'essaie de faire rire le groupe, mais en tant que truc un peu plus professionnel ou quoi, je suis ou devant des gens que je connais pas, je suis hyper reculé comme ça, genre je... Mais ouais, du coup, c'était une... Je crois que c'était vraiment une énorme... Allez, comment dire? Une énorme étape dans ma vie à faire, en fait. Et ça a débloqué plein de choses en moi. Vraiment.
Ok, trop bien.
Et bien positif.
connaissiez, c'est ça, avant que tu commences le drag. Ça a commencé comment, du coup le... Mais le drag, en général, pour toi, ça a commencé comment? C'était quoi ton premier contact avec...
Bah, du coup, avec Sugar Love, c'était la première drag queen à qui je travaillais. On a bossé vraiment un an et demi ensemble. On était genre cloîtrés ensemble toutes les semaines. Au moins, je dirais 4-5 jours par semaine. Okay. Genre, vraiment. Parce que je faisais un projet sur elle, en fait, pour ma troisième année de photo au 75 dans mon ancienne école. Et bah, en fait, moi, j'étais en mode, oh là là, je suis un homme transgenre et... me maquiller et tout, je sais pas trop qu'est-ce que va dire ma famille, qu'est-ce que va dire tout ça, parce qu'ils ont déjà accepté, enfin c'est tout un truc où j'étais en mode mais ça m'intéressait blindé, enfin de pouvoir me dire être pas juste le bête mec qu'on voit dans la rue, ou je dois être comme un homme cis ou quoi, et j'étais en mode mais en fait c'est pas moi, donc j'ai cette chance là, donc let's go, j'en profite, et voilà. Et en fait Sugar m'a vachement apporté de, bah je sais pas, de me mettre ma première robe, de me mettre mes premiers talons, de me maquiller un peu pour rigoler, enfin genre j'étais trop cool et tout, enfin pour rigoler non, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais en mode c'est un moment détente entre elle et moi,
non, mais oui.
De la nouveauté aussi, en tant que, bah c'était la première fois qu'en tant que comme transgenre je me maquillais aussi et tout, j'étais là c'est trop cool et tout, genre j'aime bien vraiment. Mais enfin, j'avais peur par rapport à ma famille, mes amis de France, tout ça, qui en fait vivent pas dans ce monde-là, qui sont pas du tout à Bruxelles, qui sont pas la vibe de Bruxelles, qui sont dans des petites campagnes, donc ben ils ont pas l'habitude de tout ça, enfin genre et du coup j'ai oublié le début de la question.
Non, mais c'était ton premier contact avec le drag, mais du coup pas encore de coming out drag à ta famille, ou
si complètement,
trop bien.
Ma grand-mère adorait.
Ouais.
Ma grand-mère dit mais Gisèle, j'adore.
Trop chouette. Et donc, du coup, tu connaissais déjà Cyrielle ou Lady Leggy?
Oui, très bien, très bien.
D'où vous connaissez?
D'amis.
Ouais, hein.
D'accord.
Ça a commencé comme ça, quoi.
Ok. Et du coup, toi, de ton côté, Lady, comment ça s'est passé? C'était quoi ton premier contact avec le drag?
Bah, moi déjà j'ai un peu ce truc cliché de depuis que je suis gamin, j'adore ça, je fais des robes avec mes essuie de bain, porte les talons de ma maman pour essayer et tout, donc voilà. Ouf. C'est cliché, mais on passe par là quoi. Oh, bien avant
RuPaul, l'épisode de, mais tu sais l'épisode de RuPaul où on les met devant leur petit
portrait. Ah oui, c'est ça.
Et... oui, je me reconnais,
c'est ça.
Oui, c'était un peu ça. Et du coup mais ça s'est un peu présenté à moi de manière, je dirais, presque naturelle, dans le sens où bah, du coup, j'avais envie de faire ça, j'étais curieux de ça. Et un jour, j'ai vu un casting passer pour hoster un show drag, en fait, à Bruxelles. Donc voilà, mon premier show drag, c'était genre dans un peu une grosse scène, dans un club de nuit où j'étais host. Wow. J'étais un peu la star de la soirée,
Slay.
J'avais un maquilleur et tout. Donc j'ai jamais été aussi bien maquillé de ma vie que pendant mon first gig.
On t'a maquillé pour ta première scène drag, trop bien.
Ah oui, j'étais pas capable de le faire à l'époque. Ouais. J'ai une photo de mon casting, d'ailleurs, je ressemblais vraiment à une patate, c'était terrible. Je comprends pas pourquoi elles m'ont choisi. Mais du coup, ouais, ça m'a vraiment donné l'envie de faire ça et de continuer. Et puis bah, du coup, on a mis ça en place. Okay. Un peu.
Et t'allais déjà voir des drag shows à ce moment-là?
Je ne crois pas.
D'accord, donc t'es vraiment entré YOLO, on répond à un casting.
Ouais,
et
c'est
puis
ça,
bim, quoi.
On tente, on voit ce que ça donne. Et,
ok. Et donc, suite à ça, tu décides de t'investir un peu plus dans le drag.
Mm-hmm.
Et donc, ça, c'est Drag Bike.
Okay. Où on se retrouve un peu. C'était plus ou moins à l'époque du. Bah, c'était le Covid, hein, comme beaucoup de gens aussi. Parce que du coup, mon premier gig, c'était vraiment juste avant le Covid. C'était un 14 février, je crois. C'était un Valentin.
Comme nous,
en fait. Wow. Ah, mais peut-être que je confonds, du coup, mais non.
Je sais pas. Belle.
On va dire pour le mythe, on va dire que oui, parce que
c'est trop beau. Mais c'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Et
premier gig un 14 février, c'était quoi ton premier numéro?
C'était donc c'était très axé danse.
Okay, déjà
parce que c'était avec un collectif de danseuses et du coup c'était danse avec un peu de lip sync, style ouais, danse hip hop avec des danseurs et tout, c'était genre super. Et après pouf, confinement nanana, et donc on se retrouve donc avec Quen, Jigo et Shining Blue à se dire bah en fait, donc on est amis de base. Et on travaillait sur un projet donc avec Quen et Shaimi. Et puis on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on retravaille ce projet qui était un projet théâtral, rien à voir avec le drag au début. Et puis on a commencé à questionner, ben, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire sur scène, qu'est-ce qu'on veut faire de ce projet, etc. Et en fait, on s'est tous dit, ben, en fait, on veut faire du cabaret, on veut faire de la scène. Et donc, on a intégré Zaël et tout à ce projet. Et puis, on a commencé à quatre à explorer ça, quoi.
Trop bien. Trop bien. Et je me suis rappelé pendant ta belle réponse que j'avais complètement oublié de lancer la traditionnelle capsule de au moment où on commence à parler de vous. Mais sur scène, qu'est-ce que ça donne ?
J'ai le sang qui boue, le cœur qui boum, je le sens qui bouge, t'es sorti d'où, toi et ta belle bouche. Il y avait des signes et ça ne trompe pas. Rare de nos jours de trouver un homme qui ne trompe
Flamme
pas.
Flamme de pips, avionneuse. Flamme de pips, avionneuse. Avant qu'il s'arrête, je ne sais rien plus.
Stick with it, get my ducks in the right, build it. Brick by brick, get the show on the right. Don't quit, Rome wasn't built in one day, you know. Life's a thing of vinegar, but when you reap what you sow, just know.
Yes, c'est beau, c'est toujours beau ce moment-là parce que je vois que les... Enfin, je vois ce que ça vous fait quoi, de réentendre vos perfs. Bon, après, là, c'est les perfs mêlés. Parce que donc, l'avant-dernier morceau dont on a écouté un petit bout, alors malheureusement, je ne peux pas faire écouter plus de 20 secondes par morceau pour ne pas me faire striker. Mais donc, l'avant-dernier morceau qu'on a écouté, c'était votre perf à deux.
Ah, le dernier même.
Le dernier.
Le dernier ?
Ouais.
Ah, ben voilà, le dernier. Trop bien. Ça fait quoi du coup de réécouter
Mais nostalgique en fait.
J'ai l'impression que c'était il y a 15 ans déjà.
Je te jure. Ouais, vraiment.
Parce que du coup, toi, c'était comment ça s'est passé, Gisèle, cette première scène ?
Mais en fait, c'est pas la première. C'est un peu un mensonge. On a fait un truc au lac.
On a fait quoi ?
Ben, on a déjà refait avant le capable. On a fait le lac.
Ah oui. En fait, on a fait deux fois la naissance de Gisèle.
Oui, mais sur la même perf.
Oui. Oui.
Mais du coup, ça comment est-ce que vous y êtes mise pour choisir ce morceau et bosser ça à deux ?
On doit vraiment dire la vérité.
Kaki.
Deux jours avant.
Non.
Si. Ben, on a pris une chorégraphie littéralement une heure avant la scène.
Ouais, wow. C'était un peu. On a tendance à travailler en dernière minute.
Donc, c'était hyper stressant. Faut dire ce qu'il y a, moi, pour ma première scène, je suis là, ok.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Mais trop bien, du coup. Non, c'était cool.
Yes. Et entre le. Bah, du coup, entre ces deux fois où vous l'avez fait au lac et au Cablab, est-ce que. Du coup, vous avez pris le temps de retravailler plus ou vous avez gardé un truc wild et.
On a un peu gardé, donc en fait on avait quand même pensé un peu à une structure pour le premier truc, enfin pour la première fois qu'on a performé, donc quelques heures avant on s'est vu et on a mis un peu tout ça, on s'est dit ah bah là on pourrait faire ça et puis du coup juste pour la deuxième fois on a un peu reprécisé ces passages quoi.
Puis comme en fait moi j'ai un pote qui m'a fait du coup toute ma tenue. J'avais pensé aussi, enfin, on avait gratuit, j'avais la jupe que j'enlève, que machin, que truc, le masque et tout. Enfin, ça, c'était un truc aussi qui nous permettait aussi de joncher, enfin, de faire des trucs pour nous dire, ok, on va en arriver là, donc il faut peut-être qu'on fasse ça avant. Enfin, on avait déjà quand même quelques bases grâce aux cagoules, grâce aussi à la jupe que je dois enlever, machin, tout ça.
Oui, c'est ça. Vous aviez un peu une structure de à tel moment il doit se passer ça, et autour de ça, vous avez construit le reste.
Des points de rendez-vous, quoi.
En plus de là, on cherchait aussi des musiques qu'on aimait bien tous les deux. Enfin. Qu'on écoute en soirée, qu'on se dit « Ah, on aime bien vibrer là-dessus, c'est cool. »
Eh bien, en parlant de structure de numéro, Lady Leggy a déjà un peu plus d'expérience en la matière. Il y a combien de numéros dans le répertoire de Lady pour le moment ? Est-ce que c'est plutôt Lady ou Leggy ?
Plutôt Leggy.
Plutôt Leggy.
Non, vous pouvez m'appeler Leggy, c'est plus confort.
Okay. Mais du coup, dans le répertoire de Leggy, il y a combien de numéros pour le moment ?
Je dirais 6, 7.
Ah ouais.
Pas okay. Énorme non plus. Mais...
Et du coup, en général, ça se passe comment ? Tu chopes une musique que t'aimes bien plutôt ou...
Mais en fait, j'aime bien travailler sur des trucs très différents. Donc, il y a à la fois des musiques qui me touchent, qui me tiennent à cœur, justement comme le morceau de Diams qui est un truc qui a genre marqué mon enfance, quoi. Et qui est quand même un peu, on va dire, dans un mood un peu tristoun, quoi. Donc il y a ça où je me dis, ah, mais je veux absolument performer là-dessus. Et puis du coup, j'aime bien le mêler avec ces numéros où je danse plus. Et donc là, ben, pareil, c'est au feeling des morceaux un peu qui me collent ou qui me suivent depuis longtemps. Et c'est simplement en les écoutant en boucle dans le train où je me dis, ah, mais en fait, j'ai envie de performer dessus. Et puis du coup, je le réécoute et je me dis, ah, mais en fait, à ce moment-là, il se passe là, à ce moment-là, il se passe ça, nanana. Mm. Et puis, je le teste. La plupart du temps, bon, ça fait un peu partie de la réalité précaire aussi de nos métiers, où bah, j'ai pas une salle de répétition avec des miroirs, etc. Donc, oui. La plupart du temps, la première fois que je performe un morceau, c'est un peu un crash test, quoi. J'ai tout un peu dans ma tête, j'ai fait un peu les mouvements dans mon salon, mais c'est vraiment sur scène que ça explose, quoi.
Ok, super, super. Et donc, en général, ça part d'un morceau, et puis tu construis autour les vues, les mouvements et tout ça. Parce que tu as un background dans la danse et la choré, toi, non ?
Oui, un peu. Ouais. Un peu, on va dire que je suis comédien et danseur. Là, en ce moment, je fais un master en danse, en recherche chorégraphique. Donc, je tends à mêler un peu tout ça, quoi.
Trop bien. Trop bien. Et de ton côté, du coup, Gisèle, il y a déjà une identité claire à Gisèle ou pour le moment, tu la laisses un peu vivre et...
Je la laisse un peu vivre. J'attends de grandir un peu, de voir, de voir où je veux aller. Qu'est-ce que Gisèle définit vraiment pour moi ? Parce que Gisèle, c'est un prénom, c'est pas au hasard que je l'ai choisi non plus. Donc, ça me rappelle... En fait, c'était mon ancien deuxième prénom.
D'accord.
Du coup, j'ai grave... Enfin, je crois que j'ai vraiment envie de faire une Gisèle un peu freaky, mais qui me représente vraiment d'avant. Parce que j'avais totalement oublié mon passé avant ma transition, quoi. J'avais fait blackout total dans ma tête. Et là, du coup, ça revient petit à petit. Et donc, du coup, en fait, j'ai vraiment envie de faire Gisèle... Créer Gisèle un peu freaky, parce que je suis un peu freaky maintenant dans ma démarche de photo, de tout ça, de trucs, quand je fais des projets autres que sur ma transition en tout cas, et de en fait ramener un peu d'éléments que j'avais avant en étant moi, mais d'avant, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais.
Non, mais si, et alors.
Donc ça prend son temps.
Tu me stops si ça va sur des sables un peu trop mouvants, mais je trouve que c'est fort d'utiliser le drag pour revenir explorer ton assignation de genre et cette partie-là de la vie. Parce que, en tout cas, les personnes trans que je connais en général ont plutôt envie de laisser ça derrière elles et d'embrasser leur nouvelle identité.
Mais je l'ai beaucoup laissé derrière moi parce que moi, j'ai fait mon coming out très tôt. Donc, j'ai eu très longtemps, enfin, au moins pendant 10 ans, j'ai complètement boycotté qui j'étais avant de là à l'oublier. Et là, tellement je me sens bien maintenant avec moi-même, je suis en mode ah, mais en fait, j'ai bien envie de la connaître quand même, enfin, savoir qui c'était.
Et... Ouais, donc quoi, c'est une manière pour toi, du coup, de venir apaiser ton lien à ton passé, c'est ça ?
Ouais, et de peut-être le faire vivre encore, parce que du coup, moi, je l'ai vraiment enterré. Et je dis ces mots-là parce que je l'ai vraiment enterré. Et en fait, plus j'avançais en me sentant bien avec moi-même, plus je me sentais un peu pas coupable, mais j'étais en mode, merde, enfin, je suis très content de qui je suis, je suis très content de ma transition, je suis très content de tout ça, mais j'ai pas envie d'oublier qui j'étais avant. Parce que j'ai longtemps voulu tout jeter ça à la poubelle et ne faire comme si ça n'avait jamais existé.
Ouais.
Mais en fait, c'est aussi grâce à qui j'étais avant que je suis devenu qui je suis. Et donc, je crois que j'ai envie de rendre un peu hommage à cette personne, en fait.
Trop beau. Trop beau. Et j'ai vu que Gisèle n'était pas sur Instagram.
Non.
C'est aussi une volonté, du coup, de garder quelque chose d'intime ou quelque chose de déconnecté de... Cette logique des réseaux de produire, d'alimenter, etc.
Bah déjà parce que je n'ai pas de quoi produire, parce que je suis très... je veux performer, enfin je veux pas performer, je veux pas... Enfin, je me sens pas légitime à faire 10 000 et une scènes. En fait, je crois que c'est quand j'ai une idée, je la fais, et peut-être que pendant 6 mois, je vais rien faire, en fait.
Ah ouais.
Enfin, c'est vraiment un truc de performance, je crois que ça rentre aussi dans tout ce qui est... Enfin, un peu mettre mes projets photos en mouvement, de tout ça, de trucs et tout. Donc en fait, je... partage plus ça du coup sur ma page où je monte ma transition parce que du coup ça fait partie de ça en fait aussi pour moi et je crois que Gisèle n'aura pas d'Instagram. Je trouve que je dis ça mais peut-être qu'on verra ça dans 2 ans mais je crois que Gisèle n'aura pas d'Instagram et c'est très bien comme ça parce que je me sens pas déjà du tout légitime je crois parce que en fait pour moi genre enfin voilà je vois Leggy enfin c'est quelqu'un qui fait beaucoup de drag qui fait tout enfin qui en fait passes ta vie un peu à faire ça, quoi. On va pas se mentir, genre.
Je fais aussi beaucoup d'autres
choses. Oui, beaucoup d'autres choses.
Ça en fait partie, ouais.
Le drag a une énorme place dans ta vie, je veux dire. Mmh. Que moi, c'est vraiment quelque chose que je veux faire petit à petit, en fait, qui va pas. Enfin, moi, ce qui prend la place, le plus de place dans ma vie, c'est vraiment super. La photo et tout ça, quoi.
Et tout donc, à fait légitime, tu vois. Enfin, je trouve tout à fait légitime à faire du drag. Pas à 100% tout de suite, mais de...
Et peut-être même jamais, en fait. Ouais, je...
Et trop bien.
Si elle a un Instagram au moment de la sortie du podcast, il va falloir...
Je n'en aurais pas. Non, j'en aurais pas, vraiment. Enfin...
Non, jamais. Et puis, pack.
Pas jusque-là, en tout cas.
Mais enfin... elle est taguée sur
le... C'est ça, quoi. On coupera au montage.
Ouais. Et justement, les guides, effectivement, t'as beaucoup d'eau de vie. Et d'ailleurs... au moment de l'enregistrement, il n'y a pas longtemps, tu as splendidement mis en lumière un projet que je portais au Théâtre de la Vie. Tu es dans Ravi, le collectif qui dirige, qui a pris la direction artistique et administrative du Théâtre de la Vie il y a
quelques mois
au moment d'enregistrer le podcast. Mais c'est important pour toi de garder une vie avec plein de facettes et plein d'activités et du coup de ne pas faire que du drag à 100% mais plein de choses.
Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment une facette de moi que j'ai un peu du mal à contrôler parfois. Aussi à du coup apprendre à calmer,
etc. Ce côté mille projets dans tous les sens.
Ouais, c'est un truc en fait que j'aime beaucoup. Je pense que y a des moments où c'est assez difficile à gérer. Et je ne suis pas sûr que dans 10 ou 15 ans, je serai encore capable de faire autant. Mais pour l'instant, c'est un truc qui me fait du bien. Je pense que j'ai beaucoup de mal à rester inactif. Et j'ai un peu cette soif de rencontrer des gens, de faire des choses, du travail manuel aussi. Donc j'aime bien un peu être sur tous les fronts. Et en même temps, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que ça me permet d'une certaine manière de travailler de plein de manières différentes sur finalement des sujets assez semblables, quoi. Enfin, ouais. J'ai l'impression que
tout vient un peu s'alimenter, s'entrecroiser.
Ouais, tout ce que je fais, ça fait partie intégrante de moi et j'y intègre aussi ce que je suis et ce que je défends. Yes. Et du coup j'aime bien vraiment ce côté pluridisciplinaire et tout. Pour moi, c'est même d'un point de vue politique, je dirais, c'est quelque chose d'hyper important, quoi.
Ouais. Et justement le drag et Lady Leggy, est-ce que tu saurais dire qu'est-ce que ça t'apporte concrètement par rapport à que d'autres choses ne t'apportent pas dans ces mille et une facettes de ta vie?
Déjà moi ça m'apporte et ça me questionne beaucoup sur les questions de genre. Où, du coup, ça a vraiment un endroit où ça me permet d'explorer des choses, en fait, de me questionner, d'essayer. Et j'aime beaucoup aussi cet aspect, où il y a un peu plus la marge de l'erreur, je trouve, dans ce milieu. Je sais pas si je suis pris pour un projet dans un théâtre, un truc super officiel, j'ai un peu moins la sensation que je peux monter sur scène et tenter un truc à l'arrache, quoi. Alors que ce côté crash test, je le trouve hyper important et hyper beau aussi dans le milieu du cabaret, quoi.
Ouais.
Avec évidemment des points positifs et négatifs, dans le sens où ça reste un vrai travail aussi de faire du drag et c'est hyper important de le valoriser, de le professionnaliser. Mais je trouve qu'il y a une espèce parfois d'ambiguïté où... Ouais, je trouve que c'est un espace qui laisse plus de place à la tentative.
Trop bien. Trop bien. Et pour toi, c'est lié aussi au fait qu'il y a un côté très pour les communautés LGBT+, et qu'il y a un côté vraiment communautaire dans le drag, ou c'est lié à autre chose Gisèle aussi, en fait, parce que je te voyais opiner du chef vigoureusement.
Non, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, en fait.
Et tout ça. T'es d'accord que pour toi, d'ailleurs, l'accueil fait à la naissance de Gisèle sur scène a été comment?
C'était plein d'émotions différentes. En vrai, c'était un peu fou. Enfin, j'étais à la fois content, à la fois stressé, à la fois genre pareil, à me reposer ces questions de légitimité. Est-ce que c'était enfin bref. Mais non, je sais pas trop quoi répondre à ça en vrai.
Non, genre, mais du côté public, qu'est-ce que t'as ressenti? Les gens étaient un peu en observation de...
Ouais, qui je me sentais débat, méga hyper observé. En plus, comme on avait le visage caché, les gens étaient un peu là en mode... Ok, parce qu'on voit vraiment, on voyait même pas nos yeux, quoi. C'était, on a, il y avait rien, juste le trou de notre bouche.
Même pas.
Non, on avait
non,
fait
non, moi je me souviens que c'était vrai. Oui, moi, okay. En tout cas, je vous ai vu arriver. Pour moi, c'était vraiment une cagoule entière.
Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait
on a
juste un anneau.
Vous respiriez parce que moi, j'avais juste
très bien.
Que c'était vraiment zéro truc.
Et on voyait presque rien, en fait.
Et j'avoue, ouais. Je me suis dit. Mais elles sont maquillées là-dessous, mais à quoi ça va ressembler?
On avait peur un peu de ça.
C'était super, c'était super.
Ça a été... Non, ouais, du coup, je crois que j'avais... Enfin, j'attendais le questionnement aussi de la... vis-à-vis des spectateurs qui étaient là. Ouais. Et je crois que ça a
fonctionné. Il y a eu des retours, il y a des gens qui sont venus te parler.
Ouais, 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 ouais. Bah, des potes qui ont vu ça aussi. Mais ouais, comme quoi, c'était hyper touchant, surtout le moment où Cyril m'enlève la cagoule et tout, et que ouais, ça... A... Ouais. Et que là, vraiment, je me mets à nu, en fait. Grâce à elle, du coup.
Trop bien. Trop chouette, trop chouette. Eh bien, nous arrivons... alors que mon chat gratte obstinément, je ne sais pas si ça va s'entendre ou pas. Nous arrivons à la troisième partie. Eh bien, un petit peu pour prolonger ça. Alors, donc effectivement, il y a cette existence familiale qui commence à arriver, mais vous gardez aussi une identité séparée. Bah, par exemple, Lady Leggy, tu vas bientôt performer dans Drag Bike sans Gisèle. Gisèle, peut-être que tu as des projets qui se dessinent ou qui vont se dessiner sans Lady Leggy. Comment est-ce que vous
sorry,
imaginez...
Sorry.
Comment est-ce que vous voyez ce côté justement entre membres d'une famille et identitaire individuelle et parcours individuel?
Je trouve ça génial, perso. Enfin... Genre, go! Il faut que je prenne mon envol. Et il faut qu'elle continue sa
elle
carrière, en fait.
Mais du coup, quoi? Genre, vous allez vous demander des conseils, même sur des perfs individuels ou quoi? Ou il y aura des points de rencontre où vous vous retrouvez si vous avez
ah
besoin?
Mais moi, d'office,
si
je fais un truc solo, je vais la faire chier, la pauvre. Ah. Genre, vraiment.
On va devoir aller
c'est ma mère, hein, c'est normal. Bah
oui,
c'est là pour moi,
t'as
quand même.
Monde, ça y est.
Plus le choix maintenant.
Non. J'assume.
Et de ton côté, tu vas. Est-ce que tu as envie d'avoir d'autres enfants déjà? Parce que donc, tu parlais plutôt de justement ces gens avec qui tu avais fait leur premier atelier make-up. Tu veux lui donner des frères et sœurs à Gisèle?
Peut-être.
Let's go.
T'en veux combien?
C'est toi qui choisis, ma belle.
Bah, ouais, moi j'ai vraiment l'impression que tant qu'il y a des personnes à qui je peux apporter des choses, bah, je le fais avec plaisir. Quoi. Donc. Franchement, ouais, welcome, et puis créons une grande communauté familiale,
ouais.
Il n'y a pas de problème.
Elle a le cœur sur la main, vraiment.
Ouais, ouais, ouais.
À fond, bah, trop bien.
Ah, oui. Et puis j'espère qu'on fera quand même une performance ensemble.
Mais bien sûr, d'office.
Ah, trop chouette. Alors oui, donc pour le moment, en tout cas de ce que j'ai vu, vous êtes dans des lieux plutôt alternatifs. Bon. Leggy a récemment performé sur la main stage de Send in the Clown. Est-ce que c'est encore les meilleures alternatives? Je ne suis pas sûr. mais c'est un choix. Bah, en plus, Lady Leggy, tu te définis comme punk. Enfin, le punk fait partie de ton identité
ouais,
drag.
Total.
Et du coup, pour vous, c'est important, ces lieux alternatifs. Vous allez continuer à vous mettre là-dessus ou si on vous propose de monter au Mademoiselle, vous y allez?
Ben, moi, c'est vrai que je fonctionne aussi un peu à ce qui se présente, quoi. Je suis assez ouverte à tout, j'ai envie d'explorer, donc j'ai déjà joué sur des scènes un peu plus institutionnalisées, c'est aussi hyper intéressant comme expérience, parce que tout à coup, bah, t'as un budget, t'as un salaire, tu peux accorder du temps à ce travail, donc ça, je trouve que c'est vraiment primordial. Et à la fois, bah, le milieu alternatif et les squats, pour moi, c'est méga important, d'autant plus à Bruxelles, où toute la scène drag qu'on a aujourd'hui bah, vient et un peu le
ouais.
La continuité de notre ouf. Loud et tout, ouais, qui ont vraiment oui, lancé un ça. Truc.
Ouais.
Donc, moi, je trouve ça méga important et je trouve que ça a évidemment sa place dans les milieux alternatifs, puisque c'est par essence aussi un art alternatif d'une certaine manière. Donc, moi, je suis très attaché à ça et à la fois. Avec plaisir, monter au cabaret Mademoiselle, si elles veulent de moi.
Oui. Si vous nous écoutez.
Bonsoir.
Et Gisèle, de ton côté, parce que donc, ton début était plutôt sur la scène alternative, tu dis que a priori, à l'avenir, ce sera plutôt pour appuyer tes projets photos, etc. Donc a priori, toi, c'est bien pour toi de rester dans des milieux plus,
ouais, ouais.
Plus marginaux.
Ouais, ouais, ça me convient très bien et tout. Pareil, si peut-être qu'un jour, si je fais un truc dans un théâtre ou quoi, pourquoi pas, mais ce serait vraiment pour une occasion spécifique aussi. Mm-hmm. Mais comme, oui, enfin.
Comment vous voyez du coup cette mainstreamisation du drag, cette institutionnalisation qu'il y a pour le moment, pour vous, c'est plutôt good news ou bad news ou les deux?
Question difficile. Ben, moi, je trouve qu'il y a vraiment, il y a les deux. Pour moi, il y a du positif et du négatif, comme dans à peu près tout dans la vie. Mais en fait, je trouve ça méga important que notre art se démocratise, que les personnes comprennent ce que c'est. Et je pense que tout ça, ça participe à l'acceptation aussi de notre art, de nos personnes, de nos genres, de nos identités. Je pense que ça participe d'une certaine forme d'éducation aussi, de transmission à des publics qui sont plus larges. Donc je trouve ça vraiment très très important que ça existe et je suis content que ça existe d'une certaine manière. Le contrepoint qu'on a toujours, c'est que il y a qu'une certaine partie de ce milieu qui est mise en avant,
qui est visibilisée
quoi. C'est ça. Et je pense pas que la partie qui soit visibilisée le mérite moins qu'une autre, loin de là. Je pense qu'elle est tout à fait légitime. Mais dans la réalité, je pense aussi que du coup, le public n'a pas accès à l'entièreté du panel qui existe. Alors que ce qui fait la beauté, je pense, de ces milieux-là, c'est l'éventail de réalité qui existe, quoi.
Et c'est ça, t'as un peu peur que du coup, le grand public reste sur RuPaul et sur les scènes qu'on lui présente, mais pas la curiosité d'aller voir.
Potentiellement. D'ailleurs. Mais pas la curiosité ou même pas spécialement. Les clés pour savoir comment aller voir. J'avais une discussion avec ma maman à ce propos où elle m'avait dit qu'elle était quand même assez qu'elle se questionnait beaucoup sur le drag parce qu'elle voyait en fait elle avait une vision assez réduite de ce qu'était le drag un peu classique et du coup elle questionnait beaucoup ça justement par rapport aux questions de représentation de genre etc. Et je lui disais mais en fait tu ne te rends pas compte de tout ce que ça représente, notamment dans les milieux alternatifs. En fait, il y a de tout, quoi. Il y a des drag queer, des drag kings, des drag queens. Il y a toutes les formes, en fait, de drag. Et ça, je pense que le grand public, entre guillemets, n'en a pas spécialement conscience en regardant uniquement RuPaul, entre guillemets.
Et de ton côté, du coup, Gisèle
Je sais pas si je suis trop légitime à répondre à ça, dans le sens où moi, j'ai fait que deux scènes, mais dans le sens où... Je suis bien d'accord.
Tu n'as fait que suivre une drag queen pendant un an et demi pour prendre des photos d'elle.
Oui, mais enfin, voilà. Mais je crois que je suis hyper d'accord avec Cyril sur le fait que, oui, le grand public n'a pas conscience de... Parce qu'il y a autant de drag qu'il y a de personnes qui font cet art, en fait. Il y a autant de façons de faire drag qu'il y a de personnes qui le font, quoi. Et je crois qu'on a plus l'habitude de voir, comme tu dis, les drags de RuPaul et tout ça et tout. Et moi, quand j'en ai parlé à ma mère et qu'elle a vu ma tenue aussi, elle était un peu là en mode... Ah mais c'est pas du tout comme ce que je m'imaginais. Enfin, genre oui, tu sais. Enfin, moi je suis pas une drag queen. Je suis plus drag freak, drag queer. Je sais pas. Elle me dit ah mais en fait il y a pas que des drag kings, des drag queens. Je dis bah non, il y a aussi des drag kings. Donc j'essaie de lui montrer un peu. Enfin, elle me dit ah ok. Donc en fait tout ce truc là qu'on voit pas vraiment. Mais en fait c'est peut-être hyper important aussi de le montrer. Peut-être que plus tard ça arrivera. On l'espère. Franchement, je touche du bois de ouf pour ces personnes là. Et non, ouais, je pense que c'est bien aussi. Ça fait prendre conscience. Aux personnes aussi que c'est un art et que c'est du travail et que c'est genre quand je vois mes potes de drag qui font du coup du drag vraiment comme toi comme d'autres et tout c'est du taf quoi. C'est du taf et souvent c'est pas assez bien payé, c'est pas assez bien machin et tout, donc peut-être que plus ça va se démocratiser entre guillemets, plus ces personnes là pourront aussi vivre mieux de ça quoi, et c'est hyper important en fait.
Trop bien.
Et c'est normal que ça prenne du temps aussi, que ça se fasse étape par étape.
Hein. Bien sûr, tout ce qui est gagné est gagné. Hein.
Oui, clairement. Ouais. Le contre-coup de ça aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de hate, quoi. Il y a des gens qui viennent devant les lectures de drag pour enfants.
C'est horrible, quoi.
On se croirait au Texas, quoi.
Vraiment.
Des pédophiles. Il y a de la violence sur les réseaux et tout. Et puis dans la vraie vie, dans la réalité. Ça vous fait un peu peur par rapport au... À vous personnellement ou au drag en général
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Enfin, c'est flemme que ça arrive, quoi. Je veux dire, ces gens, enfin, sont juste là pour. On est juste là pour s'exprimer. On fait de mal à personne, il n'y a personne. Enfin, c'est beau, c'est... Pourquoi Enfin, je comprends pas, en fait. Bon, il y a des cons partout, et voilà, mais. Ouais. Flemme, en fait. Genre. la liberté d'expression, elle est aussi là, en fait, dans le sens où ces personnes-là viennent, montrent leur art, montrent leur personne. Enfin, ça sert à quoi de venir bâcher tout ça, en fait ? Franchement.
Et toi, Légui, ça te...
C'est triste.
Ouais, bah évidemment, moi, ça me choque, ça me... C'est un peu la montée des extrêmes et donc forcément ça fait peur. Vraiment, je te dis, j'ai l'impression que ça arrive qu'aux États-Unis, quoi. Quand je vois ça se passer à la Louvière, je suis là, mais what? Comment est-ce que ça peut arriver dans notre pays? Je comprends, bah, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc effectivement, ça donne encore plus envie de le faire et de militer et de montrer en fait que ça existe et pourquoi ça existe. Mais du coup, c'est vrai que ça met l'enjeu politique, ça le déplace du coup, quoi. Ouais. De par ces prises de position de plus en plus extrêmes, ça veut dire qu'on doit aussi s'assumer de plus en plus et en parler de plus en plus.
De plus en plus en danger aussi, du coup.
Ah. Ouais, malheureusement.
Ok, super. Eh bien, parler de tout ça nous amène à nos petites questions rituelles du jour. Est-ce que pour vous, le drag va changer le monde ?
Le drag a déjà changé le monde.
Oh, yes ! C'est-à-dire ?
Je sais pas, c'était une maxime.
Ah, j'adore, on va la garder comme ça.
Non, mais évidemment.
Pardon.
Oui, non, après j'ai l'impression que ça a tellement déjà apporté dans l'histoire des communautés LGBTQIA+, et ça continue à apporter. Donc oui, pour moi, d'une certaine manière, ça a changé le monde et ça continue à évoluer. Ouais.
En vrai, je suis hyper d'accord. Genre, ça a permis d'ouvrir des barrières, entre guillemets, et ça va continuer de le faire. Et en fait, let's go, genre, continuons de changer le monde. Le monde au queer. Non, mais vraiment, genre, il faut que ça continue et ça a sa place, plus que tout, je trouve ça a sa place vraiment fort.
Super. C'est quoi votre prochain numéro ? Prochain numéro de la famille Légui.
La famille, on n'y a pas pensé à notre numéro collectif.
Non.
Bon, moi, je pense que mon prochain numéro, ce sera une chanson d'amour. Pour changer un peu des chansons dépressives.
T'es amoureuse, ma belle.
Je suis amoureuse. Ouais.
On quitte Diams.
Ouais, c'est ça. Je vais arrêter.
On va dans une autre vibe de Diams, parce qu'elle a aussi chanté.
Elle a aussi chanté l'amour, ouais. Mais ça me parle un peu moins. Mais ouais.
Trop bien. Gisèle, déjà une idée.
On a déjà une idée avec du coup mon amie avec qui je fais le magazine Full of Mag qui va sortir. Je sais pas si je peux le dire, si ça sera déjà sorti ton truc ou pas.
Moi, a priori, ça sortirait... Je crois que votre épisode, il sortira vers octobre, novembre.
Ok, nous, ça sera déjà sorti, alors. Okay. Nous, ça sort le 31 août.
Bah, vas-y, balance. Hein.
Ok, et en gros, on sort un magazine le 31 août pour les artistes queer belges, en fait.
D'accord.
Donc, on a tout un cast de personnes pluridisciplinaires... Et voilà, c'est trop bien. Ce chat me tue.
Les chats sont insupportables.
Et en gros, Alix et moi, on a fait la photo de couverture du magazine. C'est très freak, c'est un peu une performance qu'on a mis en fait en photo. Et on va faire cette performance en vrai normalement.
Trop bien.
Je ne peux peut-être pas encore dire où, mais on espère. Sûrement dans un lieu institutionnel, du coup.
Aïe.
mais voilà, on espère.
Quoi.
Ouais.
On verra
si on le fait, ce serait en octobre, quoi.
Et sinon quoi ?
Si on le fait du coup avec Alix dans celui-là, ce serait peut-être en octobre.
Ah, donc peut-être qu'on pourra...
Peut-être, mais sinon on le fera dans des lieux alternatifs et c'est très bien, genre.
À fond, à fond. Trop chouette. Alors la prochaine, c'est peut-être plutôt pour Lady, enfin pour Légui. Si vous pouviez inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui ? Ce serait quoi ?
Je sais pas trop dans le sens où je me sens pas du tout limité dans mon drag ou par mon drag, je me sens pas...
Tu te dis pas, ah, j'adorerais faire ça, mais c'est pas Légui, quoi.
Ouais, non. J'ai l'impression de me permettre un peu d'explorer tout ce que j'ai envie, justement. Ça fait partie de ma volonté, de ma recherche, de troubler un peu les genres, les styles, les disciplines et tout. Donc j'ai l'impression de pouvoir me permettre un peu tout ce que je veux. J'explorerais bien un peu plus l'aspect king, qu'on entrevoit déjà un peu dans mon personnage. Je suis un peu à la frontière comme ça entre les deux parfois, mais non, à part ça, je sais pas
donc
trop.
A priori en drag king,
Peut-être.
Peut-être.
Let's go. Là-dessous.
Histoire de plus devoir me raser la moustache tous les week-ends.
Gros plus. Et toi, Gisèle, est-ce qu'il y a déjà... Enfin, Luca, du coup, est-ce qu'il y a déjà une autre envie que Gisèle ou...
Non, pas vraiment pour l'instant. J'ai envie qu'elle grandisse encore et qu'elle montre ce qu'elle doit montrer aux gens petit à petit. Bien.
Et bah, du coup, les deux, vu que le nom du podcast, c'est Freaks et Merveilles, plutôt Freak ou plutôt Merveille ?
Freak.
Merveilleuse Freak. Ah,
Merveilleusement Freak.
Merveilleusement Freak. Trop bien. Et bah, écoutez, merci beaucoup d'être passé.
Merci à toi.
Merci à toi,
trop,
vraiment.
Trop chouette. J'ai hâte de diffuser ça.
Oui.
Et puis, eh ben, bonne chance pour cette expo. Ça va être mythique, cette expo. Vous allez faire incarner une couverture de magazine qui sort de sa couve et qui vient en live. C'est incroyable.
Oui.
J'adore. Yes.
Bon, eh ben, à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Bisous.
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 Bisous, bisous.
Oh, God.
Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoiles et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à eux.